la balade sonore des Islandais.
La chapelle de Perosamon est considérée comme l'un des plus beaux monuments patrimoniaux de la région. Elle se compose de deux parties bien distinctes. Le chœur, la sacristie, le transept, bâti en petits moellons de granit, constitue la partie ancienne. La nef, la façade et le porche sont beaucoup plus récents. Que signifie Peros? Dans les vieux manuscrits, on trouve Pen Ros. Pen le haut, Ros plateau, donc le haut du plateau. Peros est suivi du nom Amon. Amon est arrivé d'outre-Manche vers le 5e siècle. Après le succès d'une mission évangélique, il se retira au pays de Galles. Perosamon est peut-être une chapelle primitive, remontant au premier temps de l'immigration bretonne, quand les habitants des contrées insulaires, chassés par la misère puis par les anglo-saxons, durent abandonner la Grande-Bretagne et chercher refuge sur nos côtes, où ils imposèrent rapidement aux habitants du littoral, des gallo-romains, leurs mœurs, leurs traditions et probablement leur religion catholique. La paroisse de Perosamon et ses trèves, Lanévé et Lanvignec, étaient des enclaves de l'évêché de Dol. Ces enclaves résulteraient du démembrement en 848 par le roi Nominoé d'un vaste évêché lors de la création des évêchés de Dol, Saint-Brieuc et Tréguier. Entre 1183 et 1189, Alain de Goëlo fonde un monastère en l'honneur de Saint-Rion sur l'île de Gavre-Hénès, l'île à la chèvre, ou Guirvinil, l'île aux chèvres au pluriel. Le monastère est occupé par les frères de Saint-Victor. Selon l'acte de donation de 1189, les moines reçurent de nombreux biens. La bulle pontificale du pape Innocent III, du 29 avril 1198, confirme les biens donnés au monastère de Saint-Rion. Dès 1183, il existe bien une chapelle à Perosamon. Mais dans la bulle pontificale de 1198, on lui donne le nom d'église. En 1202, Alain, seigneur du Goëlo, fait édifier une abbaye à Beauport pour l'ordre des prémontrés. Alain octroie à l'abbaye de Beauport tous les biens de l'abbaye de Saint-Rion et de nombreux privilèges. En 1202, le pape Innocent III confirme dans une bulle les donations d'Alain à l'abbaye. À partir de cette date, l'église paroissiale de Perosamon ainsi que la chapelle de Saint-Pribel sont administrées par un chanoine de l'ordre des prémontrés de l'abbaye de Beauport, qui signe prieur-curé de Perosamon, Lanévé, Lanvignac ou Perosamon et annexe. Il en sera ainsi jusqu'à la Révolution. 1690, cette date gravée dans la pierre au-dessus d'une ouverture nous interpelle. En effet, un enfant noble, Jean-Cyprien Guimau, se noie le 6 juillet 1690, tout près du manoir de ses parents. Yves Cornic n'a que 19 ans au moment de l'accident. Il ne fait aucun doute que cette disparition l'a beaucoup touché. Jean-Cyprien Guimau est mort accidentellement noyé, donc privé des sacrements de l'Église. Sa famille, fortunée, pour assurer le repos de son âme, doit faire un don à l'Église. On peut supposer que la famille Guimau-Folluet ait choisi de faire des travaux dans l'église paroissiale de Perosamon, qui ne comprend alors que le chevet, la sacristie et un petit transept. Le bras droit du transept est agrandi, une grande fenêtre y est percée, laissant passer la lumière. L'église paroissiale est alors richement dotée d'un nouveau maître-autel de style baroque composé d'un grand retable en bois sombre. Le style baroque est d'influence italienne. Les neveux et héritiers de Don Cornic, ayant donné leur autorisation le 29 avril 1770, le général, il faut comprendre conseil paroissial, vote les mesures pour l'agrandissement de la chapelle de Perrosamont. Voici ce qu'indique le cahier de délibération. Le pignon de l'église de Perros sera fait de pierres de taille qui sont au couchant de la chapelle neuve et on y mettra les statues de la manière qu'elles sont là-bas. Donc les travaux commencent, le chœur est surélevé, le porche sud et une grande partie de la nef sont agrandis grâce aux pierres de la chapelle de la Trinité qui viennent s'intégrer dans la nouvelle construction à la grande satisfaction des 254 paroissiens. Le clocher pignon. Au-dessus de la porte, une date est gravée dans la pierre, 1770. Et une pierre porte l'inscription « Frère Yann Jacob, recteur de Perros ». C'est un chanoine de l'ordre des Prémontrés qui signe les registres paroissiaux dès 1690 à Perrosamont et annexe. Sur la crotère gauche, on lit la date 1685, pierre de réemploi. Sur la crotère droite, Brésilec Gove. Il s'agit d'un prêtre qui officie dès 1689 jusqu'à son décès le 19 septembre 1729. Voyons de plus près ces statues en granit qui ornent le frontispice. Dans la niche centrale, posée sur un globe terrestre, encerclée d'une croix, une sainte trinité est représentée. La plus grande des statues, qui s'adosse à la niche, nous montre le Père, sous les traits d'un homme assez jeune, habillé d'une robe ample à plis. Sur sa poitrine, une figure humaine, entourée de rayons, symbolise le Saint-Esprit. Le Père soutient de ses deux mains son Fils en crucifié. Cette niche est surmontée d'une pierre triangulaire, sculptée, représentant le Père, sous les traits d'un vieillard à grande barbe. Sa main droite bénit, sa main gauche tient le globe. Devant lui, le Saint-Esprit se présente sous la forme d'une colombe aux ailes déployées. La niche à droite du Père éternel, côté épître, abrite la statue de Notre-Dame de l'Assomption, inspirée du tableau peint par Murillo en 1678 en Espagne. Notre-Dame nous apparaît, le visage en extase, levée vers le ciel. Elle est soutenue par des anges, les mains jointes. Au-dessus, une colombe est représentée de face. Sous la niche se détache un animal fantastique, une licorne, avec une tête et un corps de cheval, une barbiche de chèvre, les deux pattes de devant armées de griffes et les deux pattes de derrière chaussées de sabots. La corne sur le front a disparu. La niche, à gauche, côté évangile, abrite Saint-Michel, tenant un calice dans la main gauche. Dessous apparaissent une chaîne et une clé. Sa main droite, qui brandissait une épée, n'existe plus. À ses pieds se contorsionnent des démons. La statue est surplombée par un buste remarquable du Père éternel, aux traits d'une grande finesse. Trois cloches venant de la chapelle foudroyée de la Trinité vont désormais carillonner pour les offices de Perrosamont. Hélas, le 1er juin 1791, deux des cloches sont réquisitionnées et s'en vont, d'abord à Paimpol, puis à Brest, pour être transformées en canon. Le 15 avril 1952, trois nouvelles cloches, Marie-Anne, Marie-Joseph et Marie-Yvonne, ont pris place dans le campanile et sont bénites par Monseigneur le Bellec. Le porche sud, ajouté en 1770, mérite une attention particulière. À l'extérieur, au-dessus d'une porte en plein cintre, une niche abrite une première statue de Notre-Dame de Perros. Notre-Dame porte dans ses bras un petit Jésus qui n'a plus de tête. Sous la statue, une tête d'ange ailée
À gauche, un agneau avec une croix, symbole de Saint Jean-Baptiste. Et à droite, l'aigle de Saint Jean. À l'intérieur, au-dessus de la porte d'entrée latérale de la chapelle, une niche ornée d'une coquille Saint-Jacques abrite la vénérable statue de Notre-Dame de Perros, statue naïve en bois polychrome, très ancienne. La lune à ses pieds, les étoiles sur sa robe, rappellent encore la vision de Saint-Jean. La pierre supérieure de la niche est gravée de cette phrase « Ave Maria, gratia plena ». La clé de voûte de la porte d'entrée latérale de la chapelle provient de la chapelle foudroyée de la Trinité. Elle est gravée de la date 1728. Le porche abrite deux bancs de pierre. Les murs sont peints à la chaux et sont recouverts de plaques funéraires. Les familles avaient pris l'habitude d'apposer ces plaques de bois peintes ou de couronnes décorées de perles sur lesquelles figurent le nom des disparus en mer, les noms des goélettes et les dates des naufrages. Le mur des disparus en mer du cimetière que vous avez vu précédemment était couvert de plaques identiques, des mémoires authentiques disparues aujourd'hui. À l'intérieur de la chapelle trône une statue du XVIe siècle de Notre-Dame de Perros-Amont. Elle est la sainte honorée et vénérée dans cette chapelle. Les familles venaient la prier pour protéger les époux et les fils qui étaient en mer. Elle était aussi la consolatrice quand les femmes désespérées venaient chercher près d'elle un dernier recours lorsque la goélette ne revenait pas. Les ex-voto étaient offerts en accomplissement d'un vœu, par reconnaissance par la famille, après le retour des pêcheurs, ou par les pêcheurs eux-mêmes, après avoir été sauvés lors d'un naufrage. Panneaux en bois, simples plaques de marbre, maquettes de goélettes, tableaux déposés au pied de Notre-Dame, en reconnaissance pour le retour des pêcheurs après un naufrage. Sur le champ de la chapelle, il y avait un cimetière. Jusqu'en 1892, les paroissiens de Perros-Amont étaient inhumés dans ce cimetière. Le cimetière n'a jamais été désaffecté et les grandes croix de bois ont disparu au fil du temps. Vers 1910, l'ossuaire a été rasé pour permettre l'élargissement de la route. Dans l'enclos de la chapelle, se trouve un petit calvaire de la fin du XVIIe siècle. Les sculptures sont naïves et simples. D'un côté, un Christ, de l'autre, une Vierge à l'enfant. Le pardon de Perros. Avant la Révolution de 1789, le pardon avait lieu le 25 mars. Philippe Durand, recteur de Ploubazlanec de 1821 à 1830, a transféré le pardon au mardi de Pâques. Plus tard, la date du pardon a été avancée d'un jour. Depuis, il se célèbre le lundi de Pâques. Guillotin de Corson a assisté au pardon en 1889 et le décrit ainsi. Le pardon de Perros, célébré le mardi de Pâques, offre un aspect très original. Les hommes, seuls, marins pour la plupart, figurent à la procession. 60 ou 80 d'entre eux, vêtus de blanc, prennent part à la procession après les vêpres. Les uns y portent les croix, les autres les bannières, les autres de petits navires pavoisés. Plusieurs se relaient pour porter le brancard sur lequel est promenée la statue de la Vierge. D'autres la suivent tenant un flambeau à la main et environ 3000 personnes viennent contempler ce touchant spectacle. La procession se rend à un pilier de granit. Les hommes qui ont l'honneur de porter Notre-Dame sont des pêcheurs à Islande qui ne sont pas partis cette année-là, ou des pêcheurs à la petite pêche, tous de Perrosamont ou de Port-Zéven. Quelques années plus tard, les femmes et les enfants ont pris part à la procession. Près du pilier, la statue est posée sur un reposoir où des chants s'élèvent en l'honneur de Notre-Dame ou pour demander sa protection. On y chante le cantique à Notre-Dame de Perrosamont. Notre-Dame de Pérouse, écoute tes enfants, protège-les, vieilles personnes, protège-les, nuit et jour. En 1946, Monsieur l'abbé Francis le Jeune entreprend des travaux de rénovation. Les statues entourant le maître-autel sont repeintes. L'électricité est installée, la litre peinte au-dessus du maître-autel est effacée. Au niveau du transept droit, vous pouvez voir un vitrail. Ce vitrail évoque le naufrage du Brick, ville du Havre, partie de Paimpol en 1841, pour aller pêcher la morue à Terre-Neuve, transportant 40 graviers. Les graviers étaient de jeunes enfants qui travaillaient la morue sur les grèves, et 32 pêcheurs. Le Brick heurta un iceberg et coula. Les 16 marins de Ploubazlanec implorèrent Notre-Dame de Perrosamont. Et après avoir passé 37 heures sur une glace dérivante, tous furent sauvés. À leur retour, les pêcheurs vinrent remercier, pieds nus, la Vierge de Perrosse. Notre-Dame de Perros et l'enfant Jésus se voient offrir de somptueux vêtements brodés par les paroissiennes. En 1992, la chapelle est restaurée par les Beaux-Arts. Le décor est allégé. Le maître-autel est doré, à la stupéfaction des paroissiens qui ont trouvé que leur petite chapelle bretonne avait perdu un peu de son atmosphère sereine et que le lieu était moins propice à la méditation et au recueillement. Aujourd'hui, il est admis que le maître-autel est mis en valeur par la dorure. Un circuit s'est instauré jusqu'à la Croix-Spelle. Il attire de nombreux visiteurs, surpris par la richesse de ce patrimoine religieux.
Empruntez l'impasse Guillaume-le-Rousseau et longez le littoral par le sentier côtier jusqu'à Port-Zéven.